Sport, le magazine du week-end, c'est chaque samedi et chaque dimanche de l'été, 1h10 pour revenir sur l'actualité nationale et internationale de la semaine avec nos invités jusqu'à 13h50. Les nouvelles sanctions américaines sur la Syrie peuvent-elles épargner les populations civiles? La loi César est entrée en vigueur mi-juin. Ses premiers effets se feraient déjà ressentir sur l'équipement médical ou sur l'aide humanitaire, d'après un rapport présenté récemment à Bruxelles. La loi César peut-elle affaiblir le régime syrien sans éprouver encore ceux qui sont restés malgré la guerre? Nous en parlerons avec nos invités aux alentours de 13h15. Pour commencer, la crise du coronavirus n'est pas terminée. Mais ce qu'on a appris pendant cette crise vaut-il ce qu'on est déjà en train d'oublier? L'été est là, avec son lot de coups d'à-coude, de rassemblements joyeux, de sueurs que l'on mêle et de verres qu'on partage. Les vacances apparemment ne supportent pas les gestes barrières. Mais le coronavirus n'est pas mort, ce n'est qu'un air qu'il se donne. Dans une tribune parue ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France, 14 médecins écrivent « La deuxième vague de demain se prépare aujourd'hui ». 14 médecins dont vous êtes, Anne-Claude Crémieux. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes infectiologue à la PHP. Pour le port obligatoire dans cette tribune, vous appelez avec 13 autres médecins au port obligatoire du masque dans les lieux publics clos. Est-ce que vous parlez d'obligation légale? Est-ce qu'il faut l'obliger?
Bien sûr, nous parlons d'une obligation décidée par les autorités sanitaires et une obligation légale, telle que d'ailleurs ça existe dans les transports publics où on voit bien que le port de masque est tout à fait bien respecté, ce qui permet de protéger la plupart des personnes. Et on voit bien que c'est donc faisable.
Et est-ce qu'on aurait dû, d'après vous, l'imposer dès le début du déconfinement? Vous étiez de ceux qui disaient même, à l'époque, au tout début de début mai, quoi, vous disiez il faudra obliger le port du masque dans la rue. Vous en étiez là. Est-ce que vous faites partie d'ailleurs des stricts de ce point de vue-là? Est-ce que vous êtes considéré comme une stricte par vos pairs?
Alors, je crois que avec l'Académie de médecine, nous avions parfaitement recommandé dès avril le port du masque obligatoire et par tous. Il y avait à ce moment-là déjà suffisamment d'éléments pour savoir que ce port de masque était très efficace. Et vous savez que le port de masque est efficace pour se protéger, il est aussi efficace pour éviter de transmettre à l'autre. Et par conséquent, dans des lieux clos, dans des lieux mal ventilés, des lieux de rassemblement, il est indispensable si on veut éviter la transmission du virus.
Alors, Anne-Claude Crémieux, on peut comprendre que le politique ne suive pas toujours les recommandations scientifiques parce que le politique doit mettre en balance l'impératif sanitaire avec d'autres facteurs. C'est ainsi que le gouvernement a justifié la réouverture des écoles en juin, par exemple, pour éviter un trop grand décrochage scolaire. Mais dans le cadre du port du masque, qu'est-ce qui, d'après vous, empêche le gouvernement, le politique, de l'imposer?
Je crois qu'il y a eu un discours assez confus sur le masque, et vous savez pourquoi? C'est parce que, effectivement, nous n'avions pas assez de masques, nous étions en situation de pénurie de masques. Je pense que ça a beaucoup gêné les autorités sanitaires pour recommander ce port de masque. Mais le passé ne justifie absolument pas le présent. Depuis, nous avons un recul, nous savons, et d'ailleurs, malheureusement, c'est ce qu'on nous observons aujourd'hui, que quand on relâche les mesures barrières, le virus étant toujours présent, il en profite. Et vous savez que les dernières données montrent qu'il y a une augmentation de la circulation du virus et même dans certaines situations, dans certaines zones géographiques, des clusters sont incontrôlés. Incontrôlés, ça veut dire que le virus circule et qu'on ne peut plus l'arrêter. Par conséquent, si on ne prend pas ces mesures aujourd'hui, le risque, c'est qu'effectivement, on se trouve confronté à des situations qu'on a déjà connues, où là, le port de masque ne suffira plus et le virus diffusera librement. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut faire obstacle à la diffusion de ce virus si on ne veut pas se retrouver débordé comme on l'a été.
C'est ce que vous dites dans cette tribune, vous parlez de signaux faibles qui commencent à apparaître et qui doivent nous alerter sur un possible redémarrage massif des transmissions. Vous parlez sur France Culture à l'instant de nouveaux foyers, de nouveaux clusters. Lesquels? Parce que concernant par exemple la Mayenne, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dit avant-hier que le virus à ce stade n'avait pas montré qu'il était capable de circuler en dehors de ces zones. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, si vous regardez les données publiées par les autorités sanitaires, c'est-à-dire Santé publique France, vous voyez que ce cluster est incontrôlé, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle une diffusion communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la diffusion du virus est maintenant au-delà du petit foyer initial, mais qu'on n'arrive pas à suivre sa trace. On n'arrive pas à repérer les chaînes de contamination. Par conséquent, on ne peut plus les contrôler, on ne peut plus les casser. Et dans ces situations-là, la seule chose qui peut freiner la diffusion du virus d'une personne à l'autre, c'est effectivement les mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale et le masque. C'est pour ça que aujourd'hui, encore plus qu'hier, ces mesures sont indispensables si on ne veut pas se retrouver confronté à des situations incontrôlées.
Je crois que d'ailleurs
qui
vous
oblige
êtes...
à beaucoup plus de sacrifices en plus.
Ouais. Oui, je crois que vous êtes d'ailleurs vous-même très précautionneuse. Vous portez un masque tout le temps et vous mettez 2 mètres de distance avec vos interlocuteurs. Sacrifice, vous parlez de quoi? D'un
alors,
reconfinement?
Ça, c'était pendant la circulation intense du
virus. Et aujourd'hui, alors
c'est normal que les mesures s'adaptent avec l'intensité de la circulation. C'est ce qui fait d'ailleurs, je dirais, la difficulté de la gestion de cette crise sanitaire. C'est que quand le virus circule moins, on est fondé de diminuer les précautions. C'est pour ça qu'on rouvre les écoles, c'est pour ça qu'on a rouvert un certain nombre de lieux. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'il faut être suffisamment réactif dès qu'il y a des signaux inquiétants pour prendre les mesures minimales qui nous permettent de contrôler la diffusion du virus. Donc effectivement, aujourd'hui, pour nous, pour tous les signataires, pour l'Académie, les mesures minimales, c'est le port de masques, pas dans la rue, mais dans les lieux clos, dans des lieux clos publics. Vous savez que les dernières données scientifiques vont parfaitement dans le sens d'une recommandation du masque, puisque vous l'avez certainement entendu, on pense que dans des lieux clos, surtout mal ventilés, le virus non seulement circule sous forme de particules qui franchissent 1 à 2 mètres, mais sous forme de petites
gouttelettes,
de micro-particules aussi, qui sont aéroportées et qui elles-mêmes peuvent diffuser bien au-delà de 1 à 2 mètres. Et donc, dans un lieu clos, dans un lieu de rassemblement, la seule façon d'arriver à se protéger, la seule façon en réalité de mettre un obstacle à la transmission du virus d'une personne à l'autre, c'est que tout le monde porte un masque.
Mais pour que les messages de prévention soient entendus, encore faut-il pouvoir les étayer avec des informations scientifiques. À part cette nouvelle qui nous a été donnée il y a une semaine, je crois, les gouttelettes peuvent être contaminantes et pas seulement les postillons. Quoi d'autre dans l'actualité scientifique, les dernières découvertes vous paraît important à mettre en avant aujourd'hui pour que
alors,
la vigilance reste de mise?
Si vous voulez, l'efficacité du masque avait déjà été démontrée il y a déjà plusieurs années. Simplement, à cette époque, il n'était pas particulièrement recommandé à tout le monde. Pourquoi ? Parce que on disait les personnes malades sont les personnes symptomatiques. Donc, ce qui est le plus important, c'est de les mettre aux personnes qui toussent, rappelez-vous, aux personnes qui ont des symptômes. La difficulté avec ce virus, c'est que on peut être contaminant, on peut porter le virus, alors qu'on n'a pas de symptômes. Et même pire, on peut transmettre le virus 48 heures avant d'avoir des symptômes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la recommandation qui a été faite au tout début de l'épidémie, qui d'ailleurs n'a pas pu être suivie parce qu'il n'y avait pas assez de masques, de dire on met un masque uniquement aux personnes symptomatiques, n'a absolument aucun sens, puisque effectivement, on peut être asymptomatique et porter le virus.
Et on peut être asymptomatique et se faire tester. On avait évoqué des tests à se pratiquer soi-même, pourquoi pas sur les lieux de vacances, ça en est où?
Ah, je pense que je suis extrêmement favorable à la multiplication des occasions de se faire tester, à la multiplication des lieux de dépistage. De façon optimale, on devrait pouvoir se faire dépister au supermarché, en bas de chez soi, et y compris sur les plages. Vous savez que certains pays qui d'ailleurs portent des masques systématiquement dans la rue et qui ont réussi à contrôler cette épidémie. Je pense à des pays qui depuis longtemps luttent contre la diffusion des virus respiratoires en mettant des masques, comme par exemple en Corée du Sud. ont installé des cabines de dépistage absolument partout, ce qui permet de se faire en fait tester et dépister en 10 minutes et d'avoir le résultat dans la journée. Aujourd'hui, on a identifié qu'il y a aussi un problème. C'est long d'avoir un rendez-vous et c'est long d'avoir un résultat. Là encore, il faut que les autorités sanitaires se saisissent de ce problème. On doit pouvoir se faire tester et avoir les résultats en 24 heures. C'est la condition nécessaire pour pouvoir avoir une politique efficace pour couper les chaînes de contamination.
Bon, pour faire le lien avec notre deuxième invité, Anne-Claude Crémieux, vous avez travaillé dans un livre paru il y a un peu plus de 10 ans maintenant sur différents épisodes. Non, c'était l'année dernière ou c'était... Bon, en tout cas, vous avez travaillé pendant très longtemps sur différents épisodes de l'histoire récente de grippe et de SRAS. Est-ce que vous diriez qu'on les a trop vite oubliés ou qu'on les a pas assez étudiés?
Je pense que d'une part, on a oublié qu'on était vulnérable à ces crises sanitaires de grande ampleur que on a connues déjà avec notamment le SRAS, qui a été une véritable alerte, même si elle n'a jamais eu le retentissement du coronavirus. Et d'autre part, je dirais qu'on a oublié aussi de tirer les leçons de ces crises sanitaires qui nous ont touchés en 2003-2006 jusqu'aux épisodes de grippe, qu'on n'a pas tiré les conséquences, je dirais, en termes de structure des autorités sanitaires chargées de gérer la crise, et en particulier en termes de réactivité. On a bien vu lors de ces auditions et d'une façon générale lors de cette crise que nous n'avions absolument pas la réactivité nécessaire, je dirais, pour nous battre à armes égales contre ces virus qui diffusent extrêmement rapidement.
Merci beaucoup Anne-Claude Crémieux d'avoir été avec nous pour la première partie de ce magazine du week-end. Je rappelle que vous êtes infectiologue à la PHP et votre livre « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire » a paru chez Lavoisier l'année dernière. Voilà, ne pas oublier le virus, ne pas oublier le confinement, ne pas oublier cette crise sanitaire. Le romancier Alexis Génie écrivait en avril que des crises comme celle-là, ça décape, ça récure, ça ponce, ça arrache les vieilles affiches, ça dissout les décors, ça ôte tout le stuc et le carton-pâte et on voit enfin la société à nu, ses mécanismes, ses rouages et ses manquements à la justice. Encore faut-il ne pas passer trop vite à autre chose. Bonjour Laetitia Atlani-Duo.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Merci beaucoup à vous d'être avec nous, directrice de recherche en anthropologie à l'Institut de recherche et développement. Vous avez initié et vous dirigerez l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, parce que vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Vous avez emprunté à Elie Wiesel ces quelques mots pour présenter cette plateforme de recherche et de réflexion collective. Alors collective avec qui? Déjà, qui sont les personnes que vous avez réunies pour cet institut?
Alors oui, cet institut réunit des mondes multiples, hein, des mondes qui ne se parlent pas souvent, ou en tout cas ne travaillent pas souvent ensemble pour essayer de fabriquer du commun. Des mondes qui réunissent donc des chercheurs, alors des chercheurs en sciences sociales, beaucoup, des anthropologues, des sociologues, des économistes, des politistes, des philosophes, mais aussi des chercheurs en santé, en économie, en droit, etc. Des soignants, des associations, des représentants de la société civile, mais aussi beaucoup d'artistes et des représentants des cultes, des grandes communautés religieuses. Toute une série de personnalités, mais aussi d'institutions, le CNRS, l'Université de Paris, l'INSERM, Normalsup, l'Université de Bordeaux, le Comité national d'éthique, la liste est longue. Donc des personnalités et des institutions qui ont décidé de se réunir au sein de cette plateforme de recherche, Covid-19 Ad Memoriam, pour essayer de penser ensemble l'impact sociétal de Covid-19 sur la société française. L'impact, on le sait, va être durable, va être important, et on va tenter de penser ensemble et de travailler à renforcer nos capacités d'anticipation et de résistance collective.
Et de ne pas oublier, alors, parce que vous sentez qu'il y a un désir d'oublier.
C'est normal, il y a un désir d'oublier, alors même, et on vient de l'entendre, hein, que l'histoire n'est pas finie, l'histoire de Covid-19 n'est absolument pas finie, et il faut prendre à la fois le temps long de la réflexion, c'est le temps qu'on se donne, on s'est donné 4 ans pour l'instant, et aussi il faut commencer aujourd'hui, tout de suite, en pleine pandémie encore, à tenter de réfléchir à ce qui nous arrive. Et donc l'Institut sera à la fois un espace d'archivage et de conservation de l'histoire, ainsi que d'entretien de la mémoire des événements, grands et petits, qui sont liés à l'épidémie, Et puis Covid-19 Ad Memoriam va aussi encourager la réflexion et l'invention de collectifs de pratiques commémoratives. Parce qu'il va s'agir de s'inscrire dans une tradition qui est maintenant ancrée en termes de culture et de praxis en Europe et qui est érigée en impératif moral, c'est-à-dire tenter de se souvenir pour continuer à vivre dans un espace sociétal où la mémorialisation du Covid-19 aidera peut-être à maintenir unifiée la société dans la durée.
Oui. Il faut... Laetitia Tlanidio, parce qu'on entend bien que vous allez aussi faire un travail de collecte. Et dès le mois d'avril, c'était dans Libération, des historiens avaient signé une tribune écrite par les historiennes Myriam Pinguet et Caroline Montebello qui appelait chacun à conserver des archives personnelles sur l'événement pour que la période que nous avons vécue ne se réduise pas dans quelques années, disait-elle, à une affaire de grands hommes et d'arbitrage politique, ni au caractère sensationnel de l'événement. Donc elle se prononçait pour une mémoire ordinaire de l'extraordinaire. Vous avez l'intention de collecter ce genre de témoignages ?
Absolument, on les collecte déjà. Et en fait, tous ceux qui nous ont rejoints créent avec nous un espace de collecte et d'archivage de toutes ces traces petites ou grandes, ordinaires ou extraordinaires, politiques ou pas, pour reprendre les termes que vous mentionniez, de toutes les expériences en fait singulières que la population française vit et va continuer à vivre, de manière à conserver à la fois un témoignage de ce qui nous arrive, mais aussi à partir de là, de penser cette rupture ou ce moment singulier que nous sommes tous plus ou moins certains de vivre, mais que nous n'arrivons pas encore à définir précisément. Ce sera aussi un des objectifs de Covid-19 Ad Memoriam, d'essayer de définir ce moment singulier. En quoi est-il singulier ? En quoi finalement est-il particulier, original, novateur, par rapport à d'autres drames, que ce soit des drames sanitaires, on l'a dit, on a parlé de crise sanitaire, mais aussi d'autres drames politiques. On pense à des grands événements, les guerres mondiales, la Shoah, les attentats plus récemment. Et donc, il faut prendre le temps long de cette réflexion-là. L'archivage a commencé tout de suite.
Comment d'ailleurs ?
La réflexion va être longue. Oui, la réflexion, par contre, doit être longue.
L'archivage auprès de qui ? Comment vous y prenez pour recueillir ? C'est quoi ? C'est des journaux intimes, des personnes qui vous
des
écrivent ?
Des journaux intimes, des photos. Les artistes aussi ont beaucoup créé, depuis le début du confinement. Les communautés religieuses, par exemple, ont été... pour certaines très innovantes depuis même le début du confinement. Les chercheurs ont beaucoup écrit, les romanciers ont beaucoup écrit. Il y a énormément de choses qui se passent en fait. Et il s'agit de conserver des traces, mais aussi de savoir réfléchir à partir d'elles. Et c'est pour ça que le temps long est nécessaire. Et c'est pour ça aussi qu'un travail collectif, encore une fois, avec des mondes multiples, qui confrontent les perspectives, à la fois de penseurs, d'intellectuels, mais aussi de soignants, mais aussi de tout un chacun, va être nécessaire pour non seulement conserver, archiver ces traces, mais aussi analyser la mémoire en cours de construction et tenter de fabriquer une réflexion commune sur ce qui nous arrive. Ça va être d'autant plus nécessaire que, comme on l'a dit avec la première intervenante, encore une fois, la pandémie n'est pas finie.
Laetitia Atlanidio, conserver des traces, notamment pour éclairer d'autres phénomènes sociaux, c'est ce que disaient ces historiennes dans Libération, nourrir une multitude de champs historiographiques, pas seulement l'histoire des épidémies, mais aussi par exemple l'histoire des solidarités. Ce que l'épidémie a créé, ce qu'elle a inventé ou parfois simplement rendu naturel de solidarité ou de solution, il faut déjà les répertorier, mais en faire quoi ensuite ?
Alors en particulier... Je voudrais revenir là-dessus. La question de la grande précarité et du Covid-19 est une vraie question aujourd'hui. Et là, une question d'actualité. Hein. On le voit, on n'a pas encore beaucoup de données, mais elles commencent à arriver. Les personnes qui vivent en situation de grande précarité sont probablement les victimes invisibles de la pandémie. Aujourd'hui, on a déjà un chiffre très parlant. Il y a une augmentation de 45% des distributions alimentaires en France depuis le début du confinement. Et il est clair que la crise sanitaire actuelle va impacter significativement les personnes qui vivent en situation de grande précarité, qui par ailleurs ont des conditions de vie extrêmement diverses. Il y a des gens qui vivent dans des hôtels sociaux, des squats, des cadas, des logements suroccupés, des personnes isolées, SDF, etc. Les conditions de logement et d'hébergement, la précarité des ressources ou encore l'accès limité aux informations sanitaires les exposent à un risque de contamination plus important et à des risques plus élevés de formes graves et de décès. Et il semblerait, encore une fois, ça va être à documenter des traces, mais aussi des analyses, il semblerait qu'il y ait un effet de trappe de Covid-19. C'est-à-dire que la crise semble avoir fait basculer dans la pauvreté et l'assistance beaucoup de nos concitoyens, avec pour eux de très grandes difficultés aujourd'hui d'en ressortir du fait de la situation économique générale. Il y a un point en particulier qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est la question du logement. La trêve hivernale qui avait été reportée pendant le confinement a pris fin il y a quelques jours, et il y a un risque que beaucoup de gens qui ont été logés ou relogés pendant le confinement se retrouvent aujourd'hui à la rue. Et là, vraiment, c'est un sujet d'actualité. La grande précarité et le Covid-19 est un sujet d'inquiétude majeure.
Laetitia Atlanidio, ces traces, elles peuvent aussi, dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, mais nourrir une histoire des politiques publiques, puisque la crise a donné l'impression que l'État pouvait tout, contrairement à ce qu'avait dit Lionel Jospin en 99. Parmi les réflexions qu'on a pu lire dans la revue de presse des idées d'Emmanuel Laurentin pendant le confinement sur le site de France Culture, il y avait par exemple celle d'une haut fonctionnaire à la Cour des comptes qui disait « Oui, l'État peut faire évoluer son périmètre régalien. L'État doit être libre, selon les circonstances et les besoins de la société, de désigner les fonctions qui lui paraissent essentielles, aussi bien en termes de sécurité publique que de sécurité économique. » Ce qu'elle a provoqué cette crise aussi, c'est ça. C'est un État qui réélargit son périmètre d'action. Ce sont des décisions politiques inédites aussi.
Absolument. Et ça, c'est aussi un des axes de réflexion de Covid-19 ad memoriam, d'où l'intérêt d'avoir avec nous des philosophes du droit, des juristes, des magistrats, des spécialistes de politique publique, parce que, en effet, il y a toute une série de questions qu'il va falloir analyser. Vous l'avez dit, ne serait-ce que l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, les liens entre les différents niveaux de gouvernance, les autorités sanitaires, traditionnels, mais aussi les nouveaux organes ou instances ou comités ou conseils qui ont été créés pendant cette crise. Et j'en parle avec une casquette particulière puisque je suis membre du conseil scientifique Covid-19 présidé par Jean-François Delfraissy. Et donc, en effet, cette crise a provoqué un certain nombre de bouleversements. L'état d'urgence sanitaire s'est arrêté il y a 2 jours, le 10 juillet. Elle s'est prolongée par toute une série de mesures. Il va s'agir de décortiquer, de réfléchir ensemble à ce qui s'est passé, mais aussi à aux façons finalement de revenir à une situation qui relève du droit commun après la crise. Le terme même d'après la crise est encore flou. Mais une grande vigilance est nécessaire.
Le président du Haut Conseil de Santé Publique, Franck Chauvin, qui fait partie de votre plateforme de recherche, dit qu'il faut comprendre pourquoi, pour la première fois face à une épidémie, le sanitaire l'a emporté sur toute autre considération, et pourquoi les populations, surtout en Europe, ont plutôt bien accepté les mesures. Qu'est-ce que ça a évoqué à l'anthropologue que vous êtes, et est-ce qu'on peut parler de rupture anthropologique en parlant de la crise, tout en constatant qu'en fait, tout est en train de redevenir comme avant?
Alors oui, Franck Chauvin fait partie, est un des cofondateurs avec beaucoup d'autres. Je vais pas tous les lister ici, mais de Covid-19 ad memoriam, avec par exemple Antoine Garapon, je parlais du droit, de la philosophie du droit, des magistrats.
Producteur sur France Culture et qui disait notamment combien la crise avait permis de libérer des détenus, 12 000 détenus en moins, il l'a dit dans la matinale de France Culture récemment. En effet, la Covid-19 a occasionné des décisions politique inédite, à accélérer certaines choses.
Et à, en effet, accélérer certaines choses, y compris du côté du droit, on l'a dit, avec la libération que vous venez de mentionner d'un certain nombre de prisonniers, mais du côté du droit aussi, il y a par exemple une multiplication des requêtes et en justice, il y a une judiciarisation de Covid-19, et il est très intéressant de voir que les controverses scientifiques sur lesquelles on se concentre à juste titre, semble aussi se déplacer du côté du droit et de la justice, avec une montée en puissance, par exemple, de la judiciarisation du Covid-19, avec un recours aux tribunaux pour trouver une forme de vérité qui peut-être n'est plus délivrée par la science, ou en tout cas est délivrée par la science avec des controverses fortes, qui est le propre de la recherche scientifique, mais que, pour certains, on découvre.
C'est-à-dire, quand vous parlez de judiciarisation de l'épidémie, qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme, comme cas examiné en ce moment ?
Il y a beaucoup de recours hein, qui sont déposés, qui ont commencé à être déposés dès la période du confinement, qui continuent à l'être, sur des sujets très variés. Mais par exemple, pour ne donner qu'un ou deux exemples, autour de la question du travail, hein, des conditions de travail, il va y avoir énormément. Il semble déjà qu'il y ait énormément de recours, de discussions, parfois de conflits autour du télétravail, du retour au travail, des conditions nouvelles de travail qui ont émergé durant le confinement, mais qui vont continuer aussi, qui vont devoir trouver des nouvelles formes dans les mois à venir. Et par exemple, autour du droit et du travail, il y a clairement un enjeu de judiciarisation aujourd'hui. Mais autour des politiques publiques aussi, vous le mentionniez, hein, c'est-à-dire que les décisions politiques qui ont été prises sont contestées. C'est normal, à juste titre, nous vivons dans une démocratie, mais elles sont contestées non seulement dans les médias, elles sont contestées non seulement dans des publications scientifiques, elles sont aussi de plus en plus contestées dans des espaces légaux, via des enquêtes et des recours en justice. Et ça va être très intéressant de suivre dans les mois et les années à venir ces débats et ces controverses.
Et de suivre aussi ce qui sera fait de ce précédent. Oui, on peut arrêter l'économie pour sauver des vies. Oui, on peut arrêter le monde. Voilà, qu'est-ce que ça va donner dans les années qui viennent ? On va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui a le plus marqué l'anthropologue que vous êtes, Laetitia Atlani-Duo, durant cette crise, sur les comportements humains, sur la conscience individuelle d'une certaine responsabilité, sur les interdépendances ?
Justement, l'institut. Je fais exprès de vous répondre à côté. Je pense que il est trop tôt pour produire une analyse fine de ce qui est en train de se passer. Il est trop tôt et individuellement, c'est trop court aussi. D'où l'intérêt d'une initiative collective, encore une fois, qui prenne le temps long de la réflexion et qui rassemble un maximum de personnalités et d'institutions de manière à confronter les points de vue et dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tenter de revenir vers vous et de présenter une analyse intéressante, intelligente et qui prenne un peu de hauteur sur ce qui se passe. On a énormément de gens qui parlent, de gens qui publient, de gens qui prennent position à chaud. Pendant la crise, c'est normal, c'est nécessaire, en particulier, par exemple, on l'a entendu tout à l'heure avec la première intervenante sur la question des masques. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels on doit intervenir, par exemple sur la précarité, j'en ai parlé, j'ai parlé de l'actualité, sur la question de l'impact sur la santé mentale de Covid-19, sur les enjeux majeurs qui vont arriver autour de l'adhésion à la vaccination, par exemple, si un vaccin efficace et arrive. Il y a plein de sujets sur lesquels on doit réagir et parler dès aujourd'hui. Une réflexion de long terme, par contre, sur ce moment singulier qui a fait que, en effet, des priorités sanitaires ont été préférées à par exemple, des priorités économiques, quand la moitié de la population mondiale a basculé dans une période de confinement généralisé, ce qui ne s'était jamais vu à cette échelle. Pour cela, il faut prendre non seulement le temps long de la réflexion, mais un temps collectif.
Donc il est trop tôt aussi pour dire si autour
de vous.
Il est
trop tôt et c'est l'intérêt de Covid-19 ad memoriam d'essayer de produire cette réflexion-là. Donc je ne tomberai pas
dans la réponse facile et immédiate.
Alors d'une réponse immédiate, ce serait contredire le projet même de Covid-19 ad memoriam.
En revanche, vous parlez de l'importance de parler justement, construire une mémoire collective, mais aussi une action collective et citoyenne peut-être. C'est Karine Lefeuvre qui est juriste et vice-présidente du comité consultatif national d'éthique qui propose une convention citoyenne sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat pour associer les citoyens aux décisions des politiques. Par exemple, décider de la proposition faite par Jean-François Delfraissy que vous citiez tout à l'heure, qui disait en cas de reprise de l'épidémie, il pense que peut-être les plus âgés, ceux qui sont les plus touchés par le virus, restent confinés. Mais rien ne doit être imposé. Voilà, donc comment on construit...
La proposition d'un comité de liaison citoyen a été faite depuis plusieurs mois déjà par le conseil scientifique dont je fais partie, qui est présidé par Jean-François Delfraissy. Donc cette proposition vient de nous. Et vient de nous en... en, en en accord avec énormément d'acteurs de la société civile. On l'a dit, on l'a écrit, on a signé des tribunes qui n'a pas été reprise par le gouvernement, qu'il fallait associer dès le début, il est encore temps, les représentants de la société civile à la prise de décision politique face à l'épidémie Covid-19. Au même titre qu'un conseil scientifique que nous constituons, un comité de liaison citoyen, c'est comme ça qu'on l'a appelé, nous semble absolument nécessaire de manière à co-construire la réponse à Covid-19, autant avec les scientifiques qu'avec des représentants de la société civile. Alors, c'est un appel qu'on a fait depuis plusieurs mois déjà, qui n'a pas été entendu. On ne perd pas espoir et on le répète, Jean-François Delfrécy le répète, je le répète, on le répète tous. Le comité national d'éthique, mais aussi énormément de représentants d'associations et de la société civile, il pousse à cela, on espère que ça va pouvoir se faire rapidement parce que ce n'est qu'en associant les représentants de la société civile que les mesures qui seront prises seront acceptées, contestées, débattues, critiquées, retournées, mais qu'elles seront finalement, qu'il y aura un espace de débat associant encore une fois non seulement le politique et la science, mais la société. Et ce triptyque nous semble absolument nécessaire.
Laetitia Atlani-Diot, juste pour conclure, vous avez invité des religieux à participer à cette réflexion, des autorités spirituelles, en tout cas, vont faire partie de cet institut Covid-19 ad memoriam. Pourquoi ?
Alors, vous parlez au futur, en fait, l'institut est lancé, déjà depuis 3 semaines, donc oui, absolument.
Il y a eu le comité...
Oui, absolument.
D'orientation.
Tous les représentants des grands cultes de France... font partie et sont des membres fondateurs de Covid-19 ad memoriam, que ce soit la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France, le Conseil national du culte musulman, le Grand Rabbin de France, l'Union bouddhiste française.
Alors pourquoi ?
Etc. J'en oublie. Parce qu'il nous semble essentiel, tout comme les représentants de la société civile, tout comme les associations de victimes, enfin l'association France Victimes est avec nous aussi, tout comme les chercheurs, tout comme les entrepreneurs, il est essentiel d'associer les représentants des grandes communautés religieuses. Dans l'histoire des épidémies, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des épidémies en Europe, au niveau international, mais aussi en Europe et également en France, les communautés religieuses ont toujours joué un rôle majeur, dans un sens ou dans un autre. Et pouvoir les associer à une réflexion sur l'impact sociétal de la pandémie, sur les traces et la mémoire, mais aussi sur ce que finalement nous décidons de faire avec ce phénomène majeur, est essentiel. Et ils nous ont tous rejoints, ce qui est pour nous une grande joie, parce que c'est aussi ce qui fait la spécificité de Covid-19 ad memoriam. Des chercheurs et des professionnels de la santé, ça arrive assez souvent dans des plateformes de recherche, y associer beaucoup d'artistes, des musiciens, des acteurs, des directeurs de théâtre, de festivals, etc. Y associer aussi beaucoup de religieux, et tous ensemble, je les ai par exemple encore réunis il y a moins d'une semaine, tous ensemble dans un séminaire de réflexion commun de Covid-19 ad memoriam, et quelque chose qui, j'espère, permettra à l'Institut Covid-19 ad memoriam de produire des analyses et des réflexions intéressantes.
Merci beaucoup. On suivra ces travaux l'Institut Covid-19 ad memoriam que vous dirigez, Laetitia Atlani-Diot. Merci à vous. Bonne journée.
Te souviens-tu du temps de nos confinements? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Des jours de confinement. m'a dit simplement qu'il y avait là devant toutes les solutions à nos questionnements. Reprends l'amour comme on croit au printemps. Reprends la vie comme on croit aux enfants. Reprends chacun. J'avais les larmes aux yeux, ne sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements.
M croit au printemps, vous êtes sur France Culture, il est 13h17.
Le magazine du week-end, Julie Gacon.
La crise sanitaire avait fait espérer une trêve mondiale, une mise entre parenthèses de tous les conflits. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en a un temps rêvé. Et c'est vrai qu'au Yémen, aux Philippines ou en Colombie, certains groupes armés avaient donné leur accord. Dans le même temps, c'était fin mars, la haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Michelle Bachelet, appelait à assouplir les sanctions imposées par les États-Unis ou par l'Union européenne dans de nombreux pays, dans le même but, disait-elle, éviter que ne s'effondrent des systèmes médicaux déjà fragiles. Aux États-Unis, si Mike Pompeo assure que l'aide humanitaire ou l'équipement médical ne sont sanctionnés nulle part durant cette période, les effets de la loi César commencent à se faire sentir en Syrie. C'est ce que disent les détracteurs de ces nouvelles sanctions américaines qui visent a priori à isoler Bachar al-Assad, mais qui risquent d'affaiblir aussi une population déjà éprouvée. Bonjour Samir Haïta.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans nos studios. Vous êtes économiste, rédacteur en chef de l'édition arabe du Monde Diplomatique et vous êtes président du Cercle des économistes arabe. Nous sommes aussi en liaison depuis Washington où il est 7h18 du matin avec vous, Charles Thépeau. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes diplomate, chercheur invité à l'Institut des politiques du Proche-Orient à Washington. Vous avez notamment travaillé en Syrie et votre livre, Le monde arabe en morceaux, vient d'être réédité chez Armand Collin. Alors, qui vise en premier lieu cette loi César? Qui sont ces alliés du régime dont parle la loi et qu'elle veut affaiblir, Samir Haïta?
La loi César, je dirais, est présentée comme quelque chose qui doit viser les gens qui ont commis des crimes contre l'humanité ou ont imposé la dictature. Mais en fait, ce sont les à côté de cette loi, comme dans les anciennes mesures unilatérales, sanctions, qui ont fait le plus de mal à la Syrie. La loi César elle-même, elle est...
Oui, pour s'attarder un peu sur cette loi César.
Voilà, elle est inutile, puisque l'administration américaine dispose de tous les ordres exécutifs et des anciennes lois qui leur permettent de faire exactement la même chose.
Il y a un petit peu plus quand même. Elle cible aujourd'hui certaines banques, certaines entreprises qui commercent avec la Syrie. C'est une nouveauté.
Oui, mais ils les ont ciblées avant, sans qu'il y ait la loi César. Cette loi est essentiellement politique. C'est-à-dire, elle vient... Ce qui est important dans cette loi, c'est son timing. C'est-à-dire, elle intervient après 2 ans de un peu rebondissement de l'économie syrienne après plein de guerres. La livre syrienne par rapport au dollar a été stable de début 2016 jusqu'à mi-2019. Et ça, c'est très étonnant, alors qu'elle a décollé maintenant. Elle intervient au moment où on savait qu'il y avait une crise libanaise. Et c'est la crise libanaise qui aujourd'hui fait du mal à l'économie syrienne, parce que les avoirs des Syriens sont bloqués, etc. Et elle intervient aussi, contrairement à ce que Monsieur le secrétaire général des Nations Unies a appelé, elle intervient au moment où il y a le Covid. L'argument qui dit que on n'interdit pas de vendre des médicaments est un argument fallacieux. La Syrie produisait ces médicaments, 80% de ces médicaments, mais l'économie pharmaceutique en Syrie a été cassée par les anciennes sanctions.
Vous avez travaillé notamment sur les sanctions américaines de 2011 à la suite des printemps arabes. On y reviendra tout à l'heure. Pour rester un instant sur cette loi César, parce que Samir Haïta, vous rentrez dans le vif du sujet. Charles Thépeau, vous êtes à Washington. Cette loi a été conçue, votée aux États-Unis. Qui sont, encore une fois, ceux qu'elle vise? D'abord les personnes nommément visées, il y en a de nouvelles par rapport aux sanctions précédentes, et puis les secteurs de l'économie syrienne.
Alors je pense que le dispositif qui est entré en vigueur le 17 juin et qui a mis un petit peu de temps à être conçu parce qu'il était intégré à la dernière loi de finances américaine, donc qui a été validée en décembre, ce dispositif, il a trois objectifs, ou en tout cas il vise en réalité trois types de cibles. La première, donc comme Samir Haïta l'a rappelé, ça concerne des dignitaires ou des entités attachées au régime syrien qui sont en fait déjà à différents titres sous sanction depuis 2011, et donc ça rajoute une option supplémentaire pour l'administration américaine pour alourdir des sanctions qui existaient déjà. Mais finalement, ce qui est le plus innovant ou le plus nouveau dans ce dispositif, c'est finalement les deux autres cibles, à savoir finalement les hommes d'affaires de la région. Il y a depuis plusieurs mois un certain nombre de rumeurs ou de tractations d'informations concernant des délégations d'affaires, notamment des pays du Golfe, qui se renseigneraient ou qui seraient intéressés pour investir ou pour revenir en Syrie. Et donc l'un des objectifs de la loi César, c'est de dissuader ces hommes d'affaires de s'engager dans une coopération avec le régime syrien.
Les empêcher.
Le troisième volet, il concerne la politique internationale et il consiste à dire à la Russie et à l'Iran que les crimes commis par le régime syrien ne peuvent pas être oubliés, et c'est d'ailleurs pour ça que cette loi s'appelle César, puisqu'elle fait référence à un photographe militaire syrien qui a fait défection et qui a révélé des milliers de photos où on voit des corps de Syriens torturés dans les geôles du régime. Donc, comme le dit Samir Haïta, il y a effectivement une dimension politique très claire, avec au-delà l'implication technique des sanctions, des messages politiques qui sont adressés bien au-delà de la Syrie.
Alors restons sur ces délégations d'affaires que vous parliez, que vous évoquiez pour l'instant, intéressées pour investir en Syrie. Il s'agit par exemple de les empêcher de participer aux efforts de reconstruction du pays. J'allais dire construction, mais on parle surtout de reconstruction, en particulier des anciennes villes rebelles bombardées dont les habitants ont été chassés puis expropriés. Est-ce que les empêcher de participer aux efforts de reconstruction, est-ce que ça veut dire que le pays est voué à rester en ruine, Samir Haïta?
Un pays comme la Syrie vivait avant le soulèvement, la répression, la guerre, qui avec peu d'investissements étrangers. Pourtant, c'était une économie qui assurait deux choses importantes, c'est-à-dire la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire. Et mon souci principal, c'est que ça s'est cassé avant la reconstruction. Ça s'est cassé et les gens, il y a un risque aujourd'hui de famine réelle. Au niveau de la reconstruction, ce qu'on oublie de dire aujourd'hui, parce qu'il y a sur le discours de reconstruction, il y a une tarte à la crème abominable. On dit qu'il faut 400 milliards ou 500 milliards de dollars pour reconstruire la Syrie. Ça n'existe pas.
C'est exclu.
Non, mais
c'est juste que c'est infondé.
C'est le chiffre a été pondu par un institut de recherche syrien qui est au Liban, qui dit s'il n'y avait pas la guerre, le PIB de la Syrie aurait gagné en plus ça. Mais ça, c'est pas un coût de reconstruction. Le coût de reconstruction est beaucoup moins important que ça. Donc, on gonfle les chiffres pour un peu déprimer les gens. Donc, c'est un outil politique, y compris le chiffre de la reconstruction. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de destruction en Syrie, mais il y a eu beaucoup de reconstruction. C'est-à-dire que quand vous comptez les immeubles, les appartements, etc., qui ont été détruits entre 2011 et maintenant, il y a eu autant de construits. Parce que il y a eu des déplacements de gens, les gens ont quitté ces centres-villes qui ont été l'objet de batailles, etc., indépendamment de qui a la faute. Enfin, et sont allés dans d'autres endroits, ils ont construit des maisons, etc. Regardez par exemple la route entre Homs et Tartous. Les gens de Homs ont quitté Homs, il y a la moitié de la population aujourd'hui à Homs, il y a des quartiers qui font mal au cœur tellement il y a de destruction. Mais toute la campagne entre Homs et Tartous est construite d'immeubles, etc. C'était des petits villages, indépendamment de ceux qui sont partis à l'étranger. Donc l'histoire de la reconstruction, elle est essentiellement liée, pas la construction des maisons, à un peu redynamiser l'économie.
Quand on parle de reconstruction en Syrie, on évoque beaucoup ces grands projets immobiliers, notamment des pays du Golfe, dans la banlieue sud-ouest de Damas, avec notamment les Émirats Arabes Unis qui veulent reconstituer une sorte de modèle réduit des cités du Golfe. Les travaux de terrassement ont déjà commencé, mais au-delà de ces grands argentiers de l'immobilier syrien, Charles Thépeau, est-ce qu'il n'y a pas aussi de petits projets, de petits entrepreneurs et pourquoi pas, parmi la diaspora syrienne, des gens qui voudraient rentrer en Syrie et investir, ouvrir un magasin et qui seraient punis par ces sanctions, puisque la loi punit le soutien substantiel à la Syrie et c'est difficile à définir?
Alors, je pense que pour bien comprendre le débat qu'il y a autour des sanctions César et puis des sanctions internationales contre le régime de manière générale, il faut rappeler une hypothèse qui est centrale. Certains la contesteront, mais elle est vraiment au centre du raisonnement d'acteurs comme les États-Unis. Et c'est l'idée selon laquelle toute assistance internationale qui est envoyée en Syrie dans les conditions actuelles a de fortes chances d'être détournée par le régime et d'être utilisée par le régime pour finir la guerre. Parce que même si on a un niveau de conflit et de violence qui a largement diminué depuis les années, par exemple 2015-2016, on reste néanmoins dans une guerre civile avec des fronts et des tensions très claires dans le nord-ouest du pays avec le cessez-le-feu qui a été en mars prouvé par la Russie et la Turquie, donc après une offensive du régime stoppée par la Turquie. Dans le nord-est syrien, il y a aussi une situation très volatile avec énormément de forces locales et internationales qui sont concentrées dans une zone qui n'est pas très grande. Et donc le contexte général dans lequel ces sanctions interviennent, c'est celui d'un conflit qui n'est pas terminé. Il y a effectivement plus de conflits dans les zones contrôlées par le régime, notamment à Damas ou autres. Mais le raisonnement qui est derrière ces sanctions, c'est que le régime ayant démontré sa capacité à détourner l'assistance internationale depuis 2011, les États-Unis, comme l'Union européenne, refusent de participer largement à des opérations de reconstruction, parce qu'ils partent du principe que ce sera forcément des hommes d'affaires liés au régime qui en bénéficieront et qui alimenteront ensuite la machine de guerre. Et dans les textes qui ont accompagné la loi César et dans les expressions américaines sur le sujet, il y a un lien qui est fait de manière très claire entre les personnes qui sont sanctionnées, notamment depuis le 17 juin, et leur rôle dans la répression ou dans le financement de l'appareil de guerre du régime. Et donc on n'est pas du tout dans un débat, je dirais, classique de est-ce que des investisseurs peuvent venir. On est dans un environnement qui reste encore assez unique et qui est celui d'une guerre civile.
Alors sur le papier, comme on dit, les biens humanitaires ne sont pas concernés, mais les ONG, elles ont bien besoin qu'on leur achemine notamment des médicaments, du matériel médical, elles ont besoin des banques et de quelques entreprises. Vous disiez, Charles Thépot, que toute assistance internationale aujourd'hui a de fortes chances d'être détournée par le régime. Mais Samir Haïta, est-ce que les associations humanitaires sont d'ores et déjà en train de pâtir de ces sanctions ?
Même avant...
Trop de précautions les tuent ou pas ?
Même avant la loi César, une organisation internationale ou les Nations Unies avaient du mal à envoyer de l'argent en Syrie, par exemple pour faire des distributions de packages, etc., ou pour acheter des choses localement, parce que ça coûte beaucoup plus cher d'acheter à l'étranger, pour distribuer de l'alimentation, pour distribuer aux gens. Parce que les banques et les sociétés ont pratiqué, au-delà des textes exactement des sanctions, ce qu'on appelle du de-risking ou de l'over-compliance. Je ne veux pas avoir de problème, je ne veux pas aller à l'OFAC demander autorisation aux Américains, je ne sais pas qui est la personne qui est en face, si elle est liée au régime ou pas, donc c'est devenu très difficile. Alors il y a eu des situations très surprenantes, du genre, elles viraient leur argent vers le Liban. Du Liban, c'était transféré à un changeur, qui transférait à un changeur illégal en Syrie, puis qui revenait à une banque. Sauf quelques banques du Golfe, d'ailleurs, dont certaines agences ont été condamnées par les Américains pour aller aider, parce qu'il y a des banques privées, hein, des banques islamiques du Golfe privées en Syrie. Certaines agences ont été condamnées pour connivence avec Daesh. Et pourtant, elles sont toujours là.
Pourquoi ?
Demandez aux Américains. Non. Dans l'histoire, Charles Thépot, il a complètement raison, parce que le discours sur aider le régime ou pas est un discours un peu biaisé, parce que si vous voulez, prenez un exemple. Aujourd'hui, la Syrie, pour faire de l'électricité, pour faire du pompage, pour irriguer, vous avez besoin de fuel. Normalement, les sanctions européennes surtout et américaines initiales interdisaient la vente du pétrole syrien, pour que le régime n'ait pas de moyens financiers. Mais le problème n'est pas là. Même en 2010, c'est-à-dire avant la crise, la balance du pétrole syrien était presque nulle. Donc aujourd'hui, la Syrie importe entre 3 et 4 milliards de dollars de fuel pour faire marcher des centrales électriques. Donc, et comme personne ne lui vend du fuel, elle va chercher ça où ? En Iran. Donc elle est devenue plus dépendante de l'Iran qu'avant. Donc c'est un truc qui se mord la queue. C'est-à-dire, c'est comme l'histoire de la Banque centrale. La loi César dit, la Banque centrale, si elle est suspectée de faire du blanchiment, elle sera punie. Mais de toute façon, vous avez fermé toutes les voies légales à la Banque centrale, elle fera nécessairement du blanchiment, puisque vous avez... Donc il y a un problème au niveau de la conception de la chose.
La Syrie peut toujours demander à son allié iranien comment on contourne des sanctions, sauf que l'Iran est suivi là-dessus par l'Europe, qui l'aide à contourner les sanctions américaines grâce à un mécanisme de troc auquel ne pourra pas prétendre Bachar al-Assad. Charles Thépot, sur la question humanitaire, dans un article dans Libération, Alaa Kodmani racontait que depuis des années, les ONG en Syrie doivent faire malgré les sanctions. Et les sanctions, très concrètement pour elles, ça se manifeste par un courrier de la banque qui signifie que votre compte est clôturé, par un SMS qui vous dit qu'un virement est rejeté, alors qu'elles envoient par exemple du matériel pédagogique aux enfants. Ces sanctions américaines ne risquent-elles pas d'être instrumentalisées par Bachar al-Assad en disant « Voyez, tout ce qui vous arrive, c'est la faute des sanctions ».
Alors, ce discours, de toute façon, il est utilisé par le régime depuis le début de la guerre et puis même auparavant. Donc, l'instrumentalisation des sanctions par le régime syrien a son bénéfice sur le plan de la mobilisation de sa base ou de l'entretien d'une idée que tout ce qui est arrivé en Syrie depuis 2011 est de la faute de l'Occident. Cette propagande-là, elle est inévitable parce que c'est un des instruments utilisés par le régime en toutes circonstances. Mais je veux revenir sur quelques points qui sont peut-être un peu techniques mais néanmoins importants. L'aide humanitaire en Syrie, elle est financée à peu près 90% par l'Europe et les États-Unis. Et depuis 2011, le volume de cette aide humanitaire atteint à peu près 30 milliards de dollars. Donc l'idée selon laquelle les opérations humanitaires ne sont pas possibles à cause des sanctions n'est pas exacte. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce que Samir Aita a signalé avec le risque de over-compliance ou de précaution excessive des banques qui ne veulent rien avoir avec la Syrie pour éviter tout risque. Donc ça, c'est un problème technique qui se pose de manière quotidienne pour les ONG, qui a été dépassé dans un certain nombre de cas ou réglé en fonction du dialogue d'un certain nombre d'ONG avec le Trésor américain ou avec l'Union européenne. Il est à noter à ce titre que la structure des sanctions européennes et des sanctions américaines n'est pas la même. La technicité est différente. Et par ailleurs, disons que l'Union européenne a été un petit peu plus proactive dans l'explication du fonctionnement de ces sanctions pour éviter justement que les activités humanitaires soient stoppées. Et le dernier point que je veux signaler sur ce sujet, parce que on rentre vraiment dans le cœur du problème politique et de la tension politique qui continue ou qui entretient le conflit syrien, c'est que le régime est lui-même responsable du détournement de l'aide à son propre bénéfice. Depuis 2011, il y a un nombre de cas assez nombreux qui ont été documentés par différentes agences, y compris des agences des Nations Unies, et qui montrent que quand l'aide humanitaire arrive en Syrie, c'est-à-dire quand elle n'est pas bloquée par des sanctions et qu'elle bénéficie des exemptions de la part du Trésor américain ou de l'Union européenne, cette aide humanitaire, qui est en général coordonnée par les Nations Unies, dans un très grand nombre de cas, elle se retrouve bloquée à Damas pour empêcher les agences onusiennes d'accéder à des zones qui sont considérées par le régime comme non loyales vis-à-vis de lui. Et il y a d'autres cas où le régime impose, par exemple, des entreprises qui lui sont proches pour gérer les denrées alimentaires ou autres qui sont données.
Donc vous pensez que les sanctions sont légitimes ?
Moi, ce que je pense, c'est que les sanctions participent à une stratégie politique, un dispositif politique qui ne se limite pas aux sanctions et qui intègre d'autres dimensions. Et à ce titre, il est essentiel de rappeler que la loi César, par exemple, n'est pas simplement un mécanisme de sanctions supplémentaires qui serait imposé dans le vide. Il y a en parallèle à l'entrée en vigueur de cette loi, des discussions politiques, un processus diplomatique très compliqué qui est mené. Et attaché à la loi César, il y a un certain nombre de conditions où les États-Unis indiquent que ce nouveau dispositif de sanctions sera utilisé, je dirais, à plein régime, ce qui n'est pas encore le cas actuellement puisque il vient de rentrer en vigueur, sera utilisé à plein régime si le régime ne change pas de comportement. Et un point qui est essentiel à ce sujet, c'est que les conditions qui sont posées par les États-Unis sont des conditions qui sont en fait assez simple. On n'est plus du tout dans l'idée où les États-Unis demandaient à Bachar el-Assad de quitter le pouvoir. Là, on est dans un cadre beaucoup plus limité, voilà. Où les conditions qui sont exigées du régime par les États-Unis concernent l'arrêt des frappes sur les installations civiles ou hospitalières, relâcher un certain nombre de prisonniers politiques, laisser passer l'aide humanitaire qui est bloquée, comme je l'indiquais à l'instant, arrêter l'utilisation des armes chimiques. Donc c'est des conditions qui sont finalement assez basses.
Oui, Charles Thépeau, je voulais faire réagir Samir Aita. On entend bien Samir Aita qu'a priori l'objectif de ces sanctions n'est plus de faire tomber Bachar al-Assad, mais d'avoir un levier de négociation.
Oui, mais ça dépend qui discute avec qui. J'ai deux remarques. D'abord, ce que Charles Thépeau a dit sur le comportement du régime est vrai, mais c'est valable pour toutes les trois zones d'influence, c'est-à-dire que ce soit les forces démocratiques syriennes, essentiellement kurdes, sur la manière à qui ils distribuent, etc., sur les zones contrôlée par la Turquie, ou la zone d'Idleb où il y a Al-Nosra, enfin les Al-Qaïda anciens. Donc le contrôle des vivres, y compris de l'aide internationale, est qu'une des armes de guerre de toutes les parties. Donc ça ne veut pas dire que le régime n'est pas criminel, il est criminel, mais ils sont tous criminels dans cette histoire. Et la difficulté de faire de la politique, c'est d'intervenir dans une guerre civile où il y a eu 500 000 morts, etc. Deuxième chose, la question politique posée par les États-Unis, où on est en train de négocier, etc. Donc vous allez... La première chose, c'est il faut quitter l'alliance avec l'Iran. J'avais expliqué tout à l'heure avec l'histoire du pétrole, si vous permettez pas à la Syrie d'importer du pétrole, et si non de choix que les Iraniens, comment peut-on faire? Donc vous les jetez dans les bras de l'Iran. Deuxième chose, cette histoire de négociation politique à Genève, hein, de 2-5-4, aller faire une constitution à Genève, pour faire. Donc ça, c'est aussi du pipeau. C'est-à-dire, prenez par exemple l'Arabie Saoudite a essayé de faire un comité qui balance un peu l'influence turque, qui contrôle le comité de l'opposition. Aujourd'hui, ça a capoté par ordre américain, en disant « allez vous mêler d'autre chose » parce que les États-Unis sont rentrés dans un jeu récemment où ils sont plus en train de jouer avec la Turquie, que ce soit en Libye ou en Syrie, qu'avec les pays du Golfe. Donc, l'histoire de dire il y aura une négociation politique aujourd'hui n'est pas crédible. Il y aura des élections présidentielles en 2021. Bachar va se proposer. Il n'y a rien, aucun mécanisme qui n'a été monté au point de vue de toute cette communauté, les États-Unis, l'Europe, etc., pour dire je prépare des termes de négociation pour aller faire autre chose. Aller faire un processus compliqué de refaire une constitution sans faire participer, par exemple, les Kurdes vraiment dans cette négociation, etc., ne mènera à rien. S'il y a un texte, c'est très bien, mais l'enjeu est à beaucoup plus court terme.
Il existe, Charles Thépeau, un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. C'était d'ailleurs l'un des volets de la résolution 2254 du Conseil de l'ONU, qui en est nulle part. A priori, ces nouvelles sanctions, est-ce qu'elles peuvent conduire autour d'une table, enfin remettre autour d'une table le régime et l'opposition pour des négociations politiques qui sont au point mort? C'est l'une des conditions du César Act pour que soient levées les sanctions, mais est-ce que ça peut marcher?
Alors, pour être tout à fait précis sur la loi César, le comité constitutionnel et les progrès de cette discussion sur une nouvelle constitution ne sont pas liés directement à la loi. Ça fait pas partie de l'exposé des motifs.
Non, mais en tout cas, reprendre des négociations entre régime
mais
et opposition.
Il est vrai que dans le cadre général de la gestion diplomatique du dossier syrien, c'est effectivement un des paramètres. Mais pour comprendre entre guillemets le bras de fer actuel autour des sanctions et au-delà en Syrie, il faut simplement rappeler que ce comité constitutionnel, il a été créé sur proposition de la Russie et dans une forme d'accord tacite entre la Turquie et la Russie pour relancer un processus politique qui était inexistant. Et qui était inexistant parce que, quelle que soit la formulation et quelles que soient les demandes formulées, le régime syrien a rejeté toute concession et n'a même pas accepté de commencer les discussions. Et donc, c'est très important d'avoir ça à l'esprit pour comprendre l'impasse actuelle d'une certaine manière, parce que on a d'un côté un régime qui mise sur le fait accompli militaire, en partant du principe que son bombardement de zones civiles et sa reprise en main lente du territoire est suffisante pour lui permettre de survivre. Et de l'autre, vous avez des États-Unis qui disent cette stratégie du fait accompli, elle n'est ni acceptable et ni réaliste, parce que ceux qui ont aidé le régime syrien dans cette reconquête militaire ne sont pas ceux qui ont les financements pour permettre la reconstruction. Et donc les États-Unis misent sur le fait qu'en raison de cette urgence économique et financière, peut-être que le régime finira par accepter des maigres concessions.
Alors la loi César, vous le rappeliez, Charles Thépeau, elle doit son nom aux militaires, photographes du ministère de la Défense, déserteurs de l'armée syrienne, qui en 2015 révélaient plus de 50 000 photos prises dans les morgues des prisons syriennes de détenus morts sous la torture. Ils photographiaient parfois jusqu'à 50 corps par jour. Ces images, par la suite, ont fait l'objet d'un long travail d'authentification avec des experts, des avocats, des organisations humanitaires et avec les familles qui, pour beaucoup, ignoraient ce qui était arrivé à leurs proches, comme ce monsieur Dei Al-Moussalmani, qui n'avait plus de nouvelles de son frère.
J'examinais sans cesse les photos, quand soudain j'ai eu la surprise de voir sa photo. C'était lui, son nez, son visage. C'était lui, c'était Ahmad avec un numéro. Ils ont collé un numéro sur lui. Ahmad avait une âme, il est devenu un simple numéro. À partir du jour où il m'avait pris Ahmad, je comptais chaque jour. Je comptais les jours sur une feuille, puis sur une autre, mois après mois. Ce jour-là, ils ont dit à Ahmad et aux autres jeunes hommes de descendre de la voiture et ont pris leur téléphone portable. Au bout d'une heure, l'officier a demandé en hurlant « À qui appartient ce téléphone ?» Ahmad a répondu « À moi ». L'officier a dit « Il y a une chanson anti-Assad sur ce portable. Vous, les autres garçons, prenez vos téléphones et partez. Les autres jeunes hommes sont partis, mais Ahmad a dû rester. »
Extrait d'un film réalisé par l'ONG Human Rights Watch en 2015. Samir Haïta, on dit beaucoup que cette loi César, elle est aussi le fruit d'un intense, est-ce qu'on peut dire lobbying, mais en tout cas les associations, la diaspora syrienne, les associations syriennes basées notamment à Washington et ailleurs, ont beaucoup rencontré des membres du Congrès républicain et démocrate et ont réussi à les convaincre tous du bien fondé de cette loi. Vous êtes vous aussi, Samir Haïta, un opposant de longue date au régime, installé ici en France depuis longtemps, mais pourquoi est-ce que vous différez à ce point sur les vertus de nouvelles sanctions sur la Syrie ?
Deux choses. Je ne crois pas qu'un régime de sanctions ait fait chuter un régime. Dans quel que soit l'exemple mondial qui était appliqué avant, des sanctions affaiblissent les gens justement qui sont dans le pays, qui résistent à un pouvoir comme ça, et les rend dépendants, y compris pour aller manger du régime. Donc, deuxième chose, le discours là que font ces opposants syriens qui sont aux États-Unis, qui ont travaillé pour ça, pour moi, ils posent une question morale. C'est-à-dire, quand je les entends dire « De toute façon, on sait que ça va créer une famine en Syrie, mais c'est peut-être le prix à payer pour que le régime disparaisse. » Ça, moralement, je ne sais pas. Si un régime est criminel, moi, je ne sais pas si je dois porter la responsabilité de centaines de milliers de morts pour faire partir le régime. Je ne peux pas, personnellement, me mettre dans ce camp-là. Bon, indépendamment du fait que c'est le Qatar qui a financé, machin, etc. Peu importe, mais je parle de la question morale principale. Plus que ça, je dirais, les Américains, en fait, je disais au début que c'est inutile. Le fait que cette loi est arrivée, c'est pas les opposants qui l'ont faite, c'est les États-Unis qui l'ont faite. Et les États-Unis, aujourd'hui, dans les discours non officiels, pas diplomatiques, ils disent le régime va chuter d'ici 3 mois. À cause de la crise du Liban, pas à cause d'eux, c'est-à-dire de la pression politique de la loi.
Ils misent sur
en même temps que la crise du Liban qu'ils connaissaient. Mais la question se pose, si le régime ne chute pas d'ici 3 mois, et s'il y a 200 000 morts à cause du Covid, à cause de la faim, à cause du machin, qui porte la responsabilité? Là, je parle aux Américains. Ça sera un peu comme l'Irak. Saddam Hussein était un dictateur, sanguinaire, criminel, etc. Mais c'est l'Irak qui a payé 1 million de morts avant l'invasion de 2003.
Il y avait déjà eu des sanctions à cette époque. Puis en 2011, les printemps arabes, des sanctions américaines.
Donc je ne peux pas me mettre dans ce camp.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Malheureusement, je ne peux pas vous faire réagir, Chaltepo, pour clore ce débat, mais je vous remercie d'avoir été en direct depuis Washington avec nous. Je vous remercie également Samira Etta et puis Chaltepo. Je rappelle les références de votre livre « Le monde arabe en morceaux », tout juste réédité chez Armand Collin. Je vous souhaite une bonne journée. Le magazine du week-end, c'est une émission préparée par Jules Crétois, par Fanny Richer et par Luc Alazo, réalisée par Luc-Jean Reynaud. À la technique aujourd'hui, c'était Morgane Danon.